Bonjour à tous. Alors, comment cultiver le bon mindset pour générer de la confiance pour soi, mais aussi pour les autres? Si vous posez cette question de est-ce que la confiance, ça se développe? Et surtout, comment on peut l'entretenir dans le temps, que ce soit pour soi ou envers les autres, notamment quand on est manager? Eh bien, je suis sûr que cette interview va énormément vous plaire. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer un grand monsieur dans tous les sens du terme, Nicolas Rimbaud, qui est le fondateur de TeamCore et il aide les dirigeants, managers, équipes collaborateurs à renforcer leur intelligence collective, leur leadership et aussi leur capacité d'exécution. Et voilà, je vous demande d'accueillir Nicolas Rimbaud. Salut Nicolas!
Salut Jérôme, je suis très heureux d'être là. Merci pour ta gentille présentation et j'ai hâte qu'on échange ensemble sur ces sujets qui sont passionnants.
Yes, bah merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, ce n'est pas notre première interview, parce que c'est vrai qu'on a le plaisir de collaborer ensemble avec Mindset de Champion, donc sur la plateforme Manager, on en parlera peut-être. Mais pour entrer dans le vif du sujet, souvent, notamment dans le domaine des soft skills, on parle souvent de talent inné ou de talent acquis, et notamment sur la confiance en soi, en fait. Hein, souvent, on dit, ah, bah, cette personne, elle a confiance en elle. D'autres qui vont dire, bah, non, celle-là, elle n'a pas confiance en elle. Et finalement, est-ce que la confiance est quelque chose qu'on est avec et que d'autres non, ou c'est quelque chose que l'on peut développer également?
C'est une vraie belle question et c'est vrai, tu as raison de rappeler que ce débat sur l'inné et l'acquis, il est souvent là sur plein de sujets. Moi, mon univers, c'est celui du sport de haut niveau et puis on pourrait dire oui, mais il y en a qui naissent avec des aptitudes ou des qualités physiques supérieures à d'autres, t'en as qui, au contraire, n'ont pas ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de la valeur de l'entraînement? L'entraînement sportif, mais l'entraînement dans les relations humaines, dans le leadership, dans le management également. Et en fait, plutôt que de l'orienter en mode question, est-ce que c'est plutôt inné ou plutôt acquis? Moi, j'aime bien mettre des et à la place des ou, et je pense que ça peut être les deux. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser qu'un être humain peut partir avec un stock de confiance en soi supérieur à un autre au démarrage, admettons. Mais c'est ce qu'il va faire des expériences et des épreuves de réussite et d'échec de sa vie qui va faire qu'il va justement entraîner son muscle de la confiance et qu'il va pouvoir arriver à booster, développer, accroître sa confiance. Pour moi, c'est un sujet qui est fascinant, tout autant que complexe, parce que vous qui nous regardez là, vous pouvez peut-être observer comme moi que peut-être que dans un contexte spécifique, dans un environnement avec une typologie de personnes, vous pouvez vous sentir très en confiance. Et même vous dire, là, franchement, je suis capable de faire des grandes choses, de me réaliser, de m'accomplir, de me sentir en sérénité, alors que la même personne, c'est-à-dire toujours vous, on vous met dans un autre contexte et vous auriez moins confiance. Je pense, typiquement à ma fille. Qui est capitaine de son équipe, elle a 17 ans, elle est capitaine de son équipe de basket en centre de formation, elle a une grande confiance sur les rôles, le positionnement, etc. Et aujourd'hui même, où on tourne cette vidéo, elle est sur le premier rassemblement du stage de l'équipe de France U18. Et je sais que sa confiance n'est pas à la même intensité, à la même hauteur dans ce contexte-là, avec des enjeux différents. Donc je pense qu'on peut relativiser tout ça, et puis il y a aussi dans quel type de domaine d'expertise, domaine de vie, tout ça, ça peut s'accomplir. On peut trouver des gens qui ont une excellente confiance en eux dans un environnement professionnel, et puis peut-être moins dans la relation de couple, de famille, etc., etc. Mais je pense que ce qu'on a besoin aussi, pour finir cette longue réponse à ta question, c'est de revenir sur c'est quoi la confiance en soi. Et la confiance en soi, pour moi, c'est la capacité à répondre à la question, est-ce que je me sens capable? Est-ce que je me sens capable, Jérôme, de répondre à tes questions ici sans qu'on ait préparé à l'avance, parce que on aime toi et moi l'authenticité, la spontanéité. Oui, donc j'ai une forte confiance en moi dans la capacité à le faire. Maintenant, si tu me disais, Nico, est-ce que tu veux aller faire un triple Ironman demain? Ma confiance en soi va chuter irrémédiablement et rapidement. Et je pense que quand on en revient à ça, c'est est-ce que je me sens capable? Et que ça peut grandement nous aider de revisiter ça comme ça.
Moi, j'aime bien cette mise en perspective et c'est vrai que c'est souvent situationnel, contextuel et ça dépend de plein de facteurs en fait. Hein. On peut, dans la même situation, avoir confiance en soi, mais peut-être qu'un jour, on a très mal dormi, on ne se sent pas bien, on a une situation émotionnelle qui nous plombe, etc. et pour laquelle la confiance peut chuter. Mais en voyant ça comme ça, finalement, on aurait peut-être, ça peut donner l'impression que on subit d'une certaine manière les éléments. Eh bien, aujourd'hui, peut-être que j'aurai confiance en moi ou peut-être pas, peut-être que je vais me sentir capable ou pas. Donc là, j'ai envie de rebondir sur le fait, mais comment on peut faire pour reprendre en main cette confiance en soi et de se dire, bah, je vais la développer comme un muscle. En fait, parler d'entraînement, Est-ce que ça s'entraîne? Et comment on peut faire pour entraîner ce muscle de la confiance?
Moi, tu vois, les sportifs ou sportifs de haut niveau que j'accompagne, ou les dirigeants et managers que je peux accompagner, lorsqu'on aborde les sujets de la confiance, je les corrèle immédiatement, je les lie immédiatement à la cousine de la confiance en soi, qui est l'estime de soi. Parce que je pense que c'est en associant les deux, une espèce de yin-yang entre les deux, qui va pouvoir nous aider. L'estime de soi, alors la confiance en soi, ça répondrait à la question « est-ce que je me sens capable ?» et l'estime de soi, ça répondrait à la question « est-ce que je me sens valable ?» Et pour moi, c'est plus d'une nature de racine, qu'il est mon sentiment de valeur. C'était deux chercheurs en psychologie sociale qui avaient fait beaucoup de travaux sur l'estime de soi et qui, à un moment donné, s'étaient dit « comment est-ce qu'on peut définir ce truc ?» et qui avaient interrogé des adolescents. Et il y a une adolescente qui avait donné cette réponse qui était « l'estime de soi, ben, c'est comment je me vois et si ce que je vois, je l'aime ou pas. Comment je me vois et si ce que je vois, je l'aime ou pas. » Et j'aime beaucoup ça parce que, pour le coup, et je vais répondre à ta question de l'entraînement derrière, mais s'il y avait des standards, typiquement chez les hommes ou chez les femmes, ce que je ne crois pas, mais s'il y avait des standards de beauté, on sait qu'il peut y avoir des mannequins dans ces univers-là qui se trouvent moches. S'il y avait des standards d'intelligence situationnelle, pour reprendre ce que tu as dit, on pourrait trouver des virtuoses là-dedans qui se trouvent pataux. Et comment ça s'entraîne? Ça s'entraîne en développant son sentiment de valeur. Donc, je suis quelqu'un de valable. Et donc, puisque je suis quelqu'un de valable, je pourrais être quelqu'un qui sera capable de faire de l'estime de soi vers la confiance en soi. Et en réalité, on irait chercher même juste avant l'amour de soi, très probablement. Comment est-ce que ça s'entraîne? Ça s'entraîne très probablement en faisant diminuer nos enjeux et en accroissant le jeu. Moi, j'aime dire ne pas être dans l'enjeu et être dans le jeu. Parce que souvent...
J-E-U, puisque... quand dans le jeu, le J-E-U, jeu, hein, le game.
Tu as raison de le rappeler. Pas le jeu, très pertinent. C'est justement ça, être dans le game, dans l'aspect ludique. Parce que comment est-ce qu'on peut entraîner la confiance? Ok, là, tu es face à un grand défi, tu es manager, tu es face à un défi, peut-être qu'il va falloir que tu prennes la parole devant une assemblée, un codir, que tu convainques, etc. Et en fait, c'est parce que tu vas te mettre à réfléchir, anticiper, psychoter sur l'enjeu, les conséquences du futur, de si tu t'y prends bien, si tu oublies une slide, etc., etc., que tu vas faire chuter ton taux de confiance. Donc, on fait chuter la préoccupation du futur tourné vers l'enjeu pour être dans le jeu. Allez, c'est cool, trop chouette, je vais faire ça pour la première fois. J'adore. Typiquement, tu vois, j'en reviens au basketball qui me fascine. Si je me trouve à tirer au lancer franc à la dernière seconde du match pour soit faire gagner l'équipe, soit on perd. L'enjeu, la conséquence, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais pouvoir, etc. Hey, dans le jeu, trop chouette, je suis là, mais j'ai trop de chance, c'est moi qui vais faire gagner l'équipe. Et puis ce geste, je sais le répéter de façon très automatisée. Donc on fait baisser l'enjeu, on augmente notre perception du jeu, et puis c'est David Goggins qui utilise le principe de la boîte à cookies. Parce que à l'instant, je parlais de notre relation de maintenant versus le futur et l'enjeu, mais j'aime bien qu'on aille visiter aussi ce qui s'est passé dans le futur, dans le passé, pardon. La boîte à cookies, donc deux façons de faire. On prend des vrais cookies, c'est quand même cool, des vrais cookies qu'on a fait soi-même, qui sont chauds, on les mange, mais ça va pas nous aider en réalité par rapport à la confiance. Son principe de la boîte à cookies, c'est vous prenez une espèce de pot, et dans le pot, vous prenez des post-it et vous écrivez sur chacun des post-it des choses que vous avez réussies dans le passé. Mais ça peut être des choses que vous avez réussies il y a très longtemps, même quand vous étiez enfant. Ah, il y avait cette super fille, là, j'étais en classe de quatrième, elle s'appelait Anne-Claire, elle était incroyable, mon Dieu, j'ai réussi à aller l'aborder, puis ça s'est bien passé, elle a dit oui, hop, je note ça dans le post-it, j'ai beau avoir quelques dizaines d'années après, c'était un objet de réussite, de confiance, où j'aurais été capable de. Et donc, on en remplit plein, que ça soit dans la dimension professionnelle, personnelle, associative, etc. On les plie en quatre, on les met dans la boîte à cookies. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait de cette boîte à cookies? Deux façons de faire pour entraîner notre confiance. Quotidiennement, le matin, j'en ouvre un. Donc, je ne sais pas si je vais tomber sur celui d'un objet d'il y a 10 ans, d'il y a 2 ans, d'il y a 6 mois, etc. Et je le regarde, mais je ne fais pas que le regarder parce qu'on ne veut pas que mentaliser. Je ferme les yeux et je ressens l'émotion pure et belle et la puissance que j'avais lorsque j'ai accompli ça. Mais je le ressens vraiment. Ce n'est pas juste un truc de mentalisation. Parfois, quand on parle de visualisation, on pense que ça s'arrête là. Alors, en réalité, on doit intégrer dans le corps. Donc, deux façons
de... Il faudrait changer le mot visualisation, peut-être, d'ailleurs.
Mais absolument. C'est de l'ordre... Ouais. Tu as tout à fait raison, comme d'habitude. C'est de l'ordre du ressenti, de l'intégration. Peut-être que c'est intégration, incarnation, implémentation. C'est des mots en un qu'il faut qu'on aille chercher, apparemment. Donc, soit on fait ça chaque matin, etc. Et quand on est dans un moment de moins bien et qu'on a des doutes qui viennent, qu'on se dit je peux pas y arriver, j'y arriverai pas, etc. Et ben là, on va en chercher 3-4, hein, en mode plus thérapeutique, plus soin. Et je pense que c'est vraiment, vous l'avez deviné, être ici, dans l'ici, maintenant, le présent, seul le présent est le réservoir d'avenir favorable. Donc, pourquoi me préoccuper de « j'y arriverai pas, je pourrai pas dans le futur », quel est l'enjeu, la conséquence de ? Et plutôt, je me réancre sur les choses que j'ai réussies, alors que l'être humain, dont je fais partie, on est tous des êtres humains, spontanément, on est plutôt en mode « oh purée, crainte, doute, anxiété liée au futur, regret, culpabilisation liée au passé ». Si on réharmonisait tout ça, ça nous aiderait vraiment à bien booster notre confiance.
Et en plus, dans tout ça, parce que là, c'est vrai qu'on s'adresse à des managers, il y a aussi cette notion de transmission. Comme tu dis, c'est quelque chose qu'on ressent, mais les autres ressentent aussi. Hein. Ça se sent, par exemple, quand un manager ou un leader d'équipe arrive et a beaucoup de doutes et est stressé et qui ne se sent pas en confiance là-dedans, ça va se ressentir au sein de l'équipe et finalement, ils n'auront pas confiance non plus. Donc, comment on peut faire aussi, enfin, déjà, est-ce qu'on peut aussi travailler sur cette projection de confiance que l'on a autour de soi pour aussi inspirer confiance ou faire en sorte que les autres nous accordent leur confiance? Parce que c'est vrai qu'on va parler beaucoup de confiance en soi, mais en fait, il y a aussi tout cet enjeu de la confiance qu'on nous accorde de la part de l'équipe.
Je vais répondre à ta première partie de question et puis par définition à la deuxième juste après. La première, est-ce qu'on peut transmettre de la confiance à quelqu'un? Oh que oui. Pour les managers et les leaders, la clé, ça s'appelle l'empuissancement ou l'empowerment en anglais. Ça veut dire, à chaque fois que je vais discuter avec quelqu'un, je me donne ce défi qui est un magnifique défi. À chaque fois que je vais discuter avec quelqu'un, cette personne, elle doit se sentir plus forte, plus puissante, plus rayonnante après la discussion avec moi. Et en fait, le message, c'est, mais je te vois, mais tellement plus fantastique, plus fort, plus rayonnant, plus impactant que toi, tu te vois. Moi, j'ai un de mes mentors que tu connais, Martin Latulippe, qui pour moi est un virtuose là-dessus. Le nombre de fois où j'ai commencé des séances de coaching en visio avec lui et que je commençais, la caméra s'allumait, j'étais là en vrac, en pleurs, en machin, etc. J'y arrive pas, j'ai des doutes, je manque de confiance et tout. Et que je repartais de la séance prêt à tout casser, on y va, let's go. Je trouve que c'est un beau défi qu'on peut se donner, mais qui finalement est pas si compliqué. J'adore ce que tu fais. C'est Gary V, l'influenceur américain, qui fait super bien ça dans ses vidéos. Il interview une femme et à un moment donné, cette femme, elle dit, pleine d'admiration pour lui, elle dit, un jour, je serai quelqu'un. Il dit, stop, tu es déjà quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un. Tu fais ça, bam, 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 et on la voit, bam, 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 et c'est absolument extraordinaire. Donc, comment est-ce qu'on peut transmettre ça? Je te vois plus grand et plus beau que toi, tu le sens et tu le sais. Quand on fait ça et qu'on est manager, les gens, ils nous suivent jusqu'au bout. On sait qu'un des fléaux dans l'entreprise, c'est le turnover. Et la plupart du temps, quand les gens quittent l'entreprise, c'est en évoquant des relations avec leur manager. Et si on est dans l'empuissancement en permanence, c'est certain qu'on va y arriver. Ensuite, pour la deuxième partie de ta question, qui est comment est-ce qu'on peut faire que les gens aient confiance en nous? Pour moi, c'est juste revenir à, il y a plein de modalités de leadership, mais au servant leadership, c'est-à-dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui sert. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment ça se passe? J'aime bien utiliser l'outil des deux questions à $1 million. Alors, Jérôme, je ne te facturerai pas $1 million et je t'offre les deux questions ainsi qu'à la communauté You Manager. J'espère que tu es touché de ça quand même. Alors, les deux questions à $1 million, ça serait des choses comme ça. Vous êtes face au collaborateur, à la personne. Jérôme, dis-moi, c'est quoi tes défis en ce moment? C'est quoi qu'en ce moment tu rencontres comme difficulté, comme sujet, comme problème, comme... Parle-moi de ça. Ça, c'est la première question, $500 000. C'est la première. La personne, elle va te répondre. Soit elle va te répondre et te partager ça, soit ça peut absolument arriver dans le milieu de l'entreprise qu'elle te réponde « Ouais, non, ça va, je peux pas trop te dire. » Mais imaginons, elle t'a donné des petits bouts de réponse à ça. Deuxième partie de la question, le deuxième $500 000, c'est « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour toi ?» Et même si la réponse devait être non, rien, ou c'est personnel, ou c'est à moi de gérer, ou ceci ou cela, c'est pas grave. J'ai témoigné de mon intérêt sincère de l'autre de vouloir l'aider, le servir, lui apporter, et peut-être qu'il s'autorisera dans d'autres circonstances à venir me demander quelque chose parce qu'il a compris que je voulais vraiment l'aider. Donc on n'est pas intrusif, mais c'est quoi tes défis, tes sujets? Comment je peux t'aider par rapport à ça? Et pour moi, quand je renvoie ça à l'autre, par définition, ça génère de la confiance qu'il aura vers moi, avec vraiment ce sujet qui est important qui s'appelle l'IS. Donc l'IS, ça peut être l'impôt sur les sociétés, mais c'est pas notre sujet du jour. L'IS, pour moi, c'est l'intérêt sincère. Je m'intéresse sincèrement à toi. Quand je te parle, il n'y a pas de personne, de sujet, de thématique, de quoi que ce soit qui soit plus important pour moi que toi quand je t'envoie ça. pas le classique quand on arrive dans les bureaux l'entreprise matin. Salut, ça va? Tu vas bien? Ouais, ouais, ça va. Et on regarde même pas les personnes et on le fait de façon très formelle. Le nombre de fois, on est en 2026 au moment où on tourne cette vidéo, où je travaille avec des managers d'entreprise et qui me disent, mais les gens de notre comité de direction, ils ne nous disent même pas bonjour. Soit ils le font comme ça, soit même pas ils le font. S'intéresser sincèrement. Alors oui, quand on est manager dans le monde de l'entreprise ou dirigeant, on n'a pas beaucoup de temps. On court après le temps, c'est le fléau. Mais s'intéresser sincèrement, c'est pas passer des heures avec les gens. Quelques secondes de qualité, quelques minutes. Et c'est, encore une fois, pour générer de la confiance de l'autre vers moi, développer ce qui est la pleine présence. Je suis pleinement présent à toi pendant ce moment-là. Et ça, ça fait qu'en retour, les gens ont confiance en nous. Parce qu'on est dans un monde qui va vite et où chacun a besoin de se sentir vu, entendu, reconnu. Voilà ce que je répondrai à ta double question.
Ouf. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Je trouve ça hyper puissant. La première, c'est par rapport à ce que tu disais sur l'empowerment, le fait de voir le potentiel de la personne et de la mettre en relief, de la faire sortir vraiment, pas juste lui dire les mots, mais de la faire ressentir en fait.
Encore une fois, qu'elle a
en elle et qu'elle ne le voit peut-être pas, qu'elle doute. Et ça, je trouve très puissant. Et ça fait penser à deux choses. La première, c'est que ça fonctionne que si c'est sincère, justement. Sinon, c'est la manipulation, etc. Et ça se sent. Parce que là, on est vraiment dans du cœur, on n'est pas dans de la tête. Ça vient du cœur. Et je sais qu'il y a Nick Alain qu'on connaît tous les deux aussi, très, très bon là-dedans également.
Oui.
Et la deuxième chose que je voulais dire, ça fait penser, je parlais de Martin la Tulipe. Je l'ai rencontré qu'une fois, mais je m'en souviendrai toute ma vie. C'était pour un événement justement que Annie Canin il organisait à l'époque. Il y avait Martin qui était là. Et moi, comme je travaillais avec Yannick pour notre livre « Les gentils aussi méritent de réussir », j'étais dans les coulisses et je rencontre Martin Atulip. Donc, je vais le voir. Et là, je suis honoré. Je suis ravi de te rencontrer. Ça fait tellement longtemps que je travaillais aussi avec Laura Massis à l'époque. Laura, Yannick parle de toi et tout. Et elle me dit « Ah, c'est… c'est Jérôme, à ce qui paraît, t'es brillant. » Il me sent ça, et là, je ne sais plus où me mettre. Je dis, ah ben non. Et là, il me regarde, il fait, pourquoi, c'est pas vrai. Et là, je ne sais plus où me mettre. Je ne sais vraiment plus où me mettre. Je suis ultra gêné. Et du coup, là, maintenant, je comprends. Je comprends par rapport à ce que tu viens de dire. Et sur le coup, ça ne m'a pas percuté. Mais maintenant, je comprends cette… comme tu dis, ce défi que tu t'es donné, que je trouve hyper noble, hyper beau et en même temps pas compliqué parce que c'est en fait, dans l'absolu, c'est simple, mais en même temps, c'est une sortie de zone de confort parce que ce n'est pas naturel dans notre société, en fait.
Oui. Est-ce que je peux rebondir à mon tour sur ton rebond?
Oui. C'est pas comme dans le basket.
Exactement, on est d'accord. Exactement, tu vois, quand il te dit « t'es brillant », et tu sais ce que j'en pense, et je te le dis même avant qu'on commence de tourner cette vidéo, ton intelligence, ta brillance, etc. Les êtres humains, ils ont soit une capacité, c'est l'une ou l'autre, plutôt une capacité à s'exagérer, en faire des tonnes, rouler des caisses, etc., soit à se minimiser. Et en fait, quand on veut développer la confiance chez quelqu'un, et notamment chez quelqu'un qui peut avoir cette tendance à se minimiser, c'est de l'aider à observer qu'il se minimise et de revenir à une vision qui est plus juste, authentique, en lui renvoyant des éléments factuels de qui il est, ses talents, etc. etc. Et c'est vraiment à nouveau le sujet de l'estime de soi, quel sentiment de valeur on se donne. Tu es brillant, ta valeur est d'être brillant. Ah bon ? Ah, tu ne l'es pas, en mode vanne, etc. etc. Et je voudrais rebondir sur un autre point que tu as donné. Pour générer de la confiance, la gentillesse est fondamental. Il y a des leaders et des managers qui se trompent là-dessus. Et c'est surtout pas cuicu les petits oiseaux, développement personnel, ce que je dis, c'est du concret terrain que je peux vérifier dans des endroits exigeants de performance et de concurrence. Le sport de très haut niveau et des entreprises qui visent des objectifs élevés. La gentillesse, c'est quoi? On a l'impression, tu sais, quand on dit quelqu'un, ah, je peux dire, lui, il est bien gentil. Ça signifie, il est bien bête. Pour pas dire autre chose. Alors qu'en réalité, si moi, j'ai même pas regardé étymologiquement ce que veut dire gentillesse, mais pour moi, la gentillesse, c'est je veux le bien pour les autres. Je veux que ça se passe bien pour les autres. Rien de plus que ça. Moi, je suis très gentil. Je lève la main à la question, est-ce que tu es très gentil? Oui, je suis très gentil. Et pour autant, si on était dans la même pièce, si quelqu'un veut venir essuyer ses chaussures sur les miennes, il va être bien reçu, parce que je suis très gentil, mais je suis très affirmé également. L'un n'empêche pas l'autre. Mais la gentillesse, je veux le bien pour les autres, la part rebond, ça génère de la confiance. Mais encore une fois, comme tu l'as très bien rappelé, de façon sincère, pas instrumentalisée.
Oui, d'où l'IS, comme tu dis, qui est la fondation importante pour tout ça, finalement.
Oui, absolument.
C'est passionnant, et du coup, j'ai envie de rebondir sur un sujet connexe à ça, parce que on est dans un scénario où j'arrive à travailler ma confiance en moi, les autres me font confiance, tout va bien, mais c'est pas toujours comme ça. Parfois, quand on perd confiance en soi, on peut retravailler dessus avec des outils, des techniques, etc. Mais quand les autres ont perdu confiance en nous, ce qui peut arriver pour X raisons, est-ce que c'est possible de reconstruire cette confiance? Et si oui, comment?
Ok, je ne vais pas répondre à ta question, exprès. Parce qu'en réalité, est-ce que la vraie question ne serait pas en quoi j'ai besoin que les autres aient confiance en moi? Parce que si c'est le cas, je suis dépendant de l'autre et des autres et de l'environnement. Imaginons, toi, Jérôme, tu vas venir dans un congrès sur les soft skills. Tout le monde va te regarder, ouais, il est génial, il est fantastique et tout. Tu vas repartir de là en mode, ça va, les gens ont confiance en moi, je suis capable de faire des choses très bien. Imaginons, on t'emmène, je sais pas si c'est approprié comme exemple, mais on t'emmène dans une prison. Et les gens vont te regarder, c'est qui cette espèce d'intello, de machin, qui sait pas ce que, etc. Et là, tu vas te dire, oh mince, les gens n'ont pas confiance en moi, ils me considèrent pas comme quelqu'un de fort. Du coup, je ne vaux rien. Et en fait, c'est trop aléatoire et dépendant. Et j'aime, et c'est pas égotique, que la confiance en soi, on essaye de pas trop la rendre dépendante du regard des autres, parce que pour le coup, on jette une pièce et on va voir. Et il y a des gens qui passent leur vie à vouloir démontrer aux autres qu'ils sont importants, qu'ils sont capables, qu'ils sont valables et qu'ils peuvent faire. Mais faisant ça, on se perd soi-même. Donc oui, en réalité, bien sûr qu'on peut regagner la confiance auprès des autres en actant, si c'est dans un environnement d'entreprise, des résultats, de la performance, de la réalisation, de l'entraide, de la solidarité, bref, tous les soft skills que tu maîtrises sur le bout des doigts. Mais surtout, j'aime à penser que pour mieux regagner la confiance des autres, j'ai surtout intérêt à regagner ma propre confiance en moi. Je te l'illustre avec cette formulation, je ne sais pas si tu la connais, mais tu sais, quand tu aspires à être en couple, quand tu as par exemple un homme qui veut séduire une jeune fille, il est fou amoureux d'elle, et en réalité, à force de lui courir après, c'est pas très appétissant, entre guillemets, pour elle, c'est pas très séduisant. Il y a cette expression qui dit « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Donc en réalité, si je voulais à tout prix regagner la confiance des autres, etc., je serais en mode « allez, montrez-moi, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux, est-ce que ceci ?» Bah, c'est pas très stimulant et puis c'est pas très grandissant pour la personne qui le fait. Donc la deuxième partie, fuis-moi, je te suis, on va pas se l'appliquer dans ce cas présent, c'est pas je m'intéresse un peu moins ou autre, mais c'est surtout je me centre sur moi, je ressens que je suis quelqu'un de capable, de valable, tu vois, je martèle à chaque fois les deux parce que je veux vraiment qu'on les corrèle, et sur cette base-là, les gens auront plus confiance en moi parce que j'ai réussi à restaurer ça en moi, mais je dois surtout pas courir après ce regard des autres. Et je le dis en connaissance de cause, quand j'étais plus jeune, je courais beaucoup après le regard des autres. Et j'ai compris que c'était fondamental de s'en détacher, en tout cas dans mon cas, et même dans le cas de pas mal de personnes que j'ai pu accompagner.
Et je pense que c'est aussi libérateur d'une certaine manière, parce que j'ai envie de dire, la complémentarité de cette gentillesse, de cette IS, de cet empowerment également, c'est aussi notre, je pense, tu vas me dire ce que tu penses de ça, mais notre capacité à donner du feedback également. Si on est tout le temps dans le « ah bah t'es génial », etc., mais quand ça ne va pas, qu'on n'ose pas le dire, parce que justement, on a peur de froisser la personne, alors que ce feedback est nécessaire pour que la personne puisse grandir, évoluer, ou que pour l'équipe puisse grandir par rapport à notre objectif. Ben, je pense qu'il y a aussi ce côté assez « ah bah oui, en fait, quand ça va bien, il me dit, quand ça ne va pas, ben, en fait, il arrive à me le dire également ». Et je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qui donne confiance parce qu'on sait que c'est vrai et que c'est pour le mieux. Qu'est-ce que toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça sur la notion de feedback?
C'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. Ce qui génère de la confiance, c'est la capacité, par exemple, à mon meilleur ami, si c'est vraiment mon meilleur ami, une pure relation d'amitié, mais on peut le transformer en mode à mon manager avec une posture de leader, c'est que je suis capable à la fois de lui dire de l'épauler, le soutenir, le réconforter quand il est dans le dur, et je suis capable de lui mettre un coup de pied dans le derrière symbolique quand il pète les plombs, qu'il se raconte du bullshit et qu'il fait n'importe quoi. Et en réalité, je pense que c'est effectivement cette capacité à aider l'autre à grandir. Donc, quand on est dans le dur, je te soutiens. Quand tu fais n'importe quoi, je te ramène à objectiver ce qui se passe. Maintenant, sur le sujet spécifique du feedback, j'en profite pour envoyer un clin d'œil tout en haut à Stéphane Morio, qui était conférencier expert du feedback, qui était un ami. J'avais ce privilège-là parce que quelqu'un d'extraordinairement brillant. Et en fait, il s'était spécialisé uniquement sur cet objet pointu du feedback, Steph. Et ce qu'il en disait, que je trouvais chouette, c'était le feedback, c'est comme un pull de grand-mère. Jérôme, si je te dis, t'as ta mamie qui, à Noël, pour te faire un grand plaisir, elle t'a tricoté un pull. En vrai, dans la vraie vie, comment il est le pull? Je t'écoute.
Oui, il est moche.
Moche. Moche.
Il gratte.
Quoi d'autre? Il gratte, exactement. Il est moche, il gratte. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre?
Il a une grosse valeur sentimentale, quand même, je pense.
Ouais. En fait, il est moche, il gratte. Il a une manche un peu plus longue, plus courte que l'autre. Il n'est pas forcément à la bonne taille. Et en fait, ce que Stéphane disait, c'était le feedback, c'est comme un pull de mamie. Quand on nous envoie un feedback, notre ego fait qu'on le perçoit moche. Comment ça, il me fait un retour, ça veut dire quoi? Notre ego vraiment lutte contre ça, on le trouve moche. Pour le coup, ça gratte, on n'aime pas trop. Et ce n'est pas à la bonne taille dans le sens où la vérité, c'est que c'est très dur d'envoyer un feedback et de l'envoyer à la bonne taille, c'est-à-dire de la bonne façon, avec la meilleure des formes. Ce n'est pas si aisé que ça. Mais comme tu l'as très bien dit, la mamie, quand elle te fait le pull, elle le fait avec le plus grand amour qui puisse exister au monde. Et le feedback, c'est la même chose. Pour moi, donner un feedback, c'est un acte d'amour. Alors, si ça vous choque le mot amour, vous pouvez mettre un acte d'humanité. Et notre responsabilité en tant que manager, c'est de savoir que quand on envoie un feedback, ça peut être moche, gratté et pas être fait à la bonne taille. Donc, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'amener dans une forme un peu meilleure. Mais c'est notre devoir de l'envoyer avec ce principe essentiel qui est je dois être dur sur les tâches, les sujets, les dossiers et doux avec les gens. Dur, c'est-à-dire intransigeant. S'il y a un truc à dire, je dois le dire parce qu'on a besoin d'être là et je suis là professionnellement pour le faire, mais doux avec les gens. Il n'y a pas de raison de le faire en criant, en vociférant, en agressant, en utilisant des noms d'oiseaux, etc. Ça n'a aucun intérêt.
Ouais, ça fait penser à cette formulation que j'entends tout le temps ici au Royaume-Uni, c'est « Oh, I will be brutally honest ». Je réponds à chaque fois « You don't have to be brutal ». Juste honnête. Voilà. Mais oui, c'est vrai que dans un monde de plus en plus dur, finalement, je pense, moi, je crois beaucoup au yin-yang, en fait. Et comme je fais aussi du Wing Chun, qui est une branche du Tai Chi, on va dire, qui est connectée au Tai Chi. Quand on a du yang, ben, il faut du yin. Quand on a du yin, il faut du yang. Et je pense que ça fonctionne bien aussi avec tout ce que tu viens de dire sur la notion de feedback, etc.
Tu vois, le brutal et honnête, ça me fait penser, plutôt que brutal, ça serait radical, une radical candor. Avoir une candor radicale, la capacité à dire les choses parce qu'elles sont et que c'est important. Mais je suis d'accord avec toi, brutalité, c'est la brutalité, la violence. Ça n'a pas lieu de l'être. Et d'ailleurs, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de réflexions dans l'univers du sport de haut niveau notamment, sur des coachs, des entraîneurs de sport collectif qui sont violents verbalement, qui crient, qui font des scènes. Et je pense que certains d'entre eux sont là parce qu'ils ont des psychoses ou des névroses, mais que tu les mettrais dans le milieu du travail, de l'entreprise telle que toi et moi, on sait pouvoir accompagner par ailleurs, ça ne passerait pas du tout. Il y a des choses qui ne vont pas. Et je suis persuadé qu'on peut être très convaincant et en puissant et engageant pour les gens en n'étant pas brutal. Parce que la brutalité, elle peut amener effectivement une réponse réflexe tout de suite dans l'instant, mais durablement, la relation, elle est cassée. Mais c'est à court terme, des fois, ça marche. Mais c'est pas le chemin que toi et moi, on vise.
Ouais. C'est passionnant et j'aimerais pouvoir continuer de discuter avec toi des heures sur ce sujet. Je pense que voilà, tu es intarissable là-dessus, donc c'est génial. Mais on arrive comme sur la fin de cette interview. J'aimerais terminer sur une autre question. Par rapport vraiment au lien avec le sommet. Donc, toi qui travailles beaucoup sur le mindset, on pourrait résumer un mindset à adopter pour avoir cette confiance à 360 degrés?
J'irais bien vers le concept des 3 A que j'aime beaucoup. Le concept des 3 A, c'est avoir une forte ambition. Une ambition élevée, viser très haut. C'est le premier A. Vraiment essayer d'être dans une ambition élevée. Le deuxième, ça serait d'accepter le prix à payer. En fait, pour forger ma confiance en moi, je veux me fixer des objectifs élevés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'une autre approche, ça serait les petits steps, les petits pas, etc. Oui, 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 je me fixe un objectif élevé et je mets en place les petits pas. Ensuite, j'anticipe qu'il y a un prix à payer, ce qui fait que quand il y a un obstacle, une difficulté, une contrainte, je le savais, je l'accepte, et du coup, ça fracasse pas ma confiance en moi lorsque je suis dans le sujet. Et surtout, le dernier, ça serait un A au carré, des actions adaptées. Je mets en place des actions adaptées parce que la confiance, elle se forge à travers le passage à l'action. Un poison de la confiance, c'est la procrastination. J'hésite, je sais pas, puis je pourrais faire ci, puis je pourrais faire ça, puis tiens, je vais réfléchir à ce projet, je fais ça. Passe à l'action, passe à l'action. Et tu vas pouvoir éprouver. Tu t'es planté, très bien, bravo, t'es passé à l'action. Quand moi, je vois des gens qui courent dans la rue, etc., qui peuvent être un peu en surpoids et tout, et qui courent, je dis, mais bravo, mais merci, vous courez plus que moi. C'est génial. Les gens qui passent à l'action, c'est très bon pour leur confiance en eux. Donc, j'irai bien vers ces approches-là. Comment je peux me fixer des ambitions très élevées? J'anticipe un prix payé parce qu'il y en aura un et du coup, je ne fragiliserai pas ma confiance dans le chemin. Et je mets en place les actions adaptées qui peuvent être, des fois, je vais y aller très fort. Tu sais, si on était encordé pour monter une montagne, les actions adaptées, la plupart du temps, c'est justement les petits pas, un pas régulier, etc. Mais oh là là, une avalanche qui arrive, on va courir pour aller jusqu'au refuge. Action adaptée suivante, une crevasse, il va falloir qu'on saute. Je caricature, évidemment. Mais quelle action je peux mettre en place qui sera adaptée aux circonstances, mais qui soit de l'action? On a besoin de ça.
Oh, bah, je trouve que c'est une superbe manière de conclure cette interview. Merci beaucoup, mais ce n'est pas tout, parce que comme pour chaque intervenant et intervenante, vous pouvez profiter aussi donc, d'un cadeau qui est proposé. Je sais que tu en as préparé un, qui est le pack de l'entrepreneur champion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quoi il s'agit?
Alors, je peux en parler même pour les non-entrepreneurs. Hein. Je l'ai appelé le pack de l'entrepreneur champion, mais dans les entreprises, quand on est manager, on est parfois des intrapreneurs. On fait comme si c'était notre boîte et on s'engage et on veut que notre équipe avance bien. Dans ce pack, en fait, il y a 6 cadeaux qui permettent de vraiment mettre en place en application concrète les meilleurs outils du monde du sport de haut niveau. Une première fiche pratique à remplir chaque jour qui vous permet de construire votre journée de champion. Une vidéo pratique sur 6 clés qui permettent de switcher après un événement négatif. Un petit guide que j'ai appelé mes 25 leçons de vie pour performer en sérénité. Ensuite, j'ai un guide, et là, je vais le faire en mode teasing, de questions à se poser pour voyager dans le temps, j'en dis pas plus. Et puis, une intervention vidéo que j'avais fait dans mon événement qui s'appelle You Can Be sur les routines matinales. Vous trouverez tout ça. Ça me fait plaisir de vous l'offrir pour aller plus loin.
Ouais, merci beaucoup. Donc, on met le lien en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et j'ai envie de proposer un deuxième cadeau en plus pour les personnes qui aimeraient aller encore plus loin, c'est qu'il y a aussi un défi qu'on a construit ensemble, le défi de mindset de champion, défi 3 jours. Donc, pour les personnes qui veulent en plus de ça aussi l'avoir, ben, vous aurez le lien également. Comme ça, vous pourrez avoir encore plus de cadeaux de la part de Nicolas. Donc, merci en tout cas pour tout ça. Et pour les personnes qui sont inscrites à ce sommet, eh bien, sachez que, comme pour tout participant au sommet, vous aurez accès au format MP3 de cette interview. Si vous la réécoutez dans votre voiture comme un podcast, eh bien vous pourrez le télécharger. Et comme pour toutes les autres interventions de ce sommet, vous aurez aussi la possibilité de télécharger la synthèse visuelle de cette intervention. Et en plus de ça, vous aurez d'autres cadeaux, surprises qui vous attendent et également donc, un live avec Clément Bergon et moi-même, donc une session privée entre nous. Donc, vous aurez accès à tout ça. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à l'événement et que vous voyez cette vidéo sur YouTube, eh bien, vous savez quoi faire maintenant. Inscrivez-vous pour pouvoir bénéficier de tout ça. Merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment absolument génial. Merci pour tout ce que tu nous as offert, à la fois en termes de contenu et aussi dans la forme. Je trouvais ça très inspirant. Et tu nous as fait un très beau cadeau. Donc, merci à toi.
Bravo à Clément et toi pour ce que vous faites. Et puis, tous ceux qui regardaient cette vidéo, rejoignez les Programming Managers. C'est fait avec tellement de cœur et que des super experts. Donc, bravo pour votre belle démarche.
Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Bye bye.